Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, député européen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury et meilleurs voeux à toutes et à tous. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour et bonne année.
Bonne année également, merci d'être avec nous pour ce premier grand jury donc de 2020. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Jean de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour
Adrien. Dans la question en plus, ce sera Pierre Mera, avocat et coprésident du MRAP, qui vous interpellera, Jordan Bardella, à propos de vos déclarations récentes sur la Seine-Saint-Denis dont vous êtes originaire. Et puis, bien sûr, question nette, vous y êtes habitué. En fin d'émission, Marie-Pierre Haddad nous rejoindra pour relayer vos interpellations, vos questions à notre invité, Jordan Bardella. Ce sera donc en fin d'émission. Alors Jordan Bardella, l'année 2019 a plutôt été porteuse pour le Rassemblement National, une convalescence visiblement terminée après une période post-présidentielle compliquée. Et en remportant les élections européennes en mai dernier, vous avez pris votre part à cette remontée électorale, au point que l'on dit de vous que vous êtes peut-être le véritable dauphin de Marine Le Pen. Sans le patronyme du fondateur historique du Front National, tout deviendrait possible. Mais d'ici là, en cette année 2020, une échéance importante vous attend, les municipales. Une élection qui a toujours été compliquée pour votre parti car vous manquez d'alliés pour constituer des majorités. Quels sont vos objectifs? Comment y parvenir? Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Une campagne pour les municipales qui pourrait être parasitée par la réforme des retraites. Réforme à laquelle vous restez farouchement opposé sans qu'on comprenne bien quelle alternative réelle, réaliste, vous proposez. Nous en parlerons bien évidemment, mais avant d'y venir, une première question sur l'attaque au couteau. C'était à Villejuif vendredi, Guillaume Roquette.
Oui, un homme a été mortellement poignardé vendredi par un meurtrier présumé qui était un islamiste radicalisé, mais qui avait aussi des antécédents psychiatriques. Est-ce qu'il est possible d'empêcher préventivement ce genre de personnes de passer à l'acte?
Écoutez, on est à quelques jours des 5 ans des attentats de Charlie Hebdo, période 2015 où on commençait à successivement voir des islamistes frapper notre pays. La question qu'on peut se poser 5 ans après, c'est qu'est-ce qui a été fait fondamentalement contre une idéologie qui nous a déclaré la guerre, pas grand-chose. Moi, je m'étonne toujours de voir certains journalistes, de voir certains politiques se poser encore la question à chaque fois que nous avons ce type d'acte et se demander pendant 24 heures si on ne pourrait pas porter cette responsabilité sur la cause de la psychiatrie. Alors effectivement, il faut avoir un pétocasque pour poignarder des gens dans la rue. Maintenant, cela est fait systématiquement au nom d'une idéologie qui est celle de l'islamisme radical. À chaque fois que des pays partout ailleurs dans le monde ont été frappés, ils ont réagi. Et nous, peut-être par peur de l'amalgame, par peur de stigmatiser.
Mais alors, qu'est-ce que vous auriez
la peur,
fait,
en tout cas, d'agir nous tétanise depuis maintenant
mais
plusieurs
d'agir,
années.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut s'attaquer à la racine du mal. Il faut fermer les mosquées radicales. Il y en a une dizaine de manière dérisoire qui ont été fermées depuis 2015. Il faut s'attaquer à cet immense réservoir qui est celui des fichés S. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont fichés pour radicalisation dans notre pays.
Il ne l'était
pas,
en l'occurrence.
Lui ne l'était pas, mais je veux dire, l'islamisme ne pousse pas dans les prairies normandes. Et l'islamisme se développe aujourd'hui dans notre pays. Et je vous invite d'ailleurs à lire l'interview de M. Trévidi, qui est juge antiterroriste, qui dit que cette idéologie aujourd'hui, elle touche tout le territoire. Elle touche même toutes les strates de l'administration française. Enfin, pardon, mais il y a quelques jours, un terroriste était membre de l'administration française, a frappé au sein même la préfecture de police de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Est-ce qu'on a fait un audit de l'administration? Est-ce qu'on a écarté dans la fonction publique tous les individus qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste?
Sur cet homme en particulier, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on enferme en permanence toutes les personnes qui ont eu des troubles d'ordre psychiatrique ou psychologique? Parce que c'est aussi ce terreau-là qui...
Je dis que lorsque on arrive à savoir en quelques heures que l'auteur d'une attaque terroriste était radicalisé et avait manifestement un lien avec le fondamentalisme islamiste, alors je dis qu'il faut s'attaquer à la racine du mal.
Et donc il y a une défaillance.
Il faut fermer les mosquées radicales. Il faut couper tous les financements du fondamentalisme islamiste. Il faut empêcher le fait aujourd'hui que des lieux de culte soient financés par des fonds qui viennent de l'Arabie Saoudite ou du Qatar non, c'est des mesures extrêmement concrètes et qui importent une lecture wahhabiste et extrêmement rigoriste de l'islam. Il faut arrêter d'être faible parce que lorsque nous sommes faibles, en l'occurrence, c'est eux qui sont forts. Et je note que depuis 2015, on regarde les morts comptés, on compte les victimes. Et là, en l'occurrence, celui qui a payé de l'impuissance de l'État, c'est un homme qui, héroïquement, et on parle trop peu des victimes, s'est interposé pour protéger sa femme. Et j'aimerais effectivement qu'on ait une pensée aussi pour les victimes et pour les plus de 260 Français
qui sont tombés depuis 2015.
Il y a eu une défaillance de l'État pour vous.
En quoi y a-t-il une défaillance de l'État
puisqu'il n'était pas fiché ? Il ne faut pas regarder uniquement ce qui se passe là. Il faut regarder ce qui se passe depuis des mois et des mois dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait après l'attentat de la préfecture de police ? Rien. On n'a rien fait. Alors qu'on sait qu'il y a dans l'administration française, qu'il y a dans les sociétés de transport, par exemple, comme à la RATP.
On a fermé des écoles, on a fermé des mosquées.
En tout cas, je profite de votre émission ce midi pour lancer un avis de recherche parce que, en tout cas, manifestement, compte tenu du drame que nous avons vécu, le ministre de l'Intérieur a disparu. Et les Français se demandent s'il y a un pilote dans l'avion.
Alors, son secrétaire
ils
d'État
se demandent s'il y a un ministre de l'Intérieur pour assurer leur sécurité parce que la France de Emmanuel Macron est celle où on vit en insécurité. Elle est celle où on vit en insécurité économique. Elle est celle où on vit en insécurité sociale. Elle est évidemment celle où on vit en insécurité physique. J'en profite évidemment aussi pour avoir un mot pour les violences qui ont émané notre pays le 31 décembre, le soir du réveillon, avec des dizaines et des dizaines de voitures qui ont été brûlées. Heureusement que nous avons les réseaux sociaux. Et encore une fois, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est totalement absent. Donc je lance un avis de recherche et j'espère qu'il va très vite revenir sur la scène politique parce que les Français, ils attendent des mesures. Je vous dis sur le fondamentalisme islamiste, il faut fermer les mosquées radicales, il faut s'attaquer aux fichiers, il faut expulser de notre territoire
Christophe
les gens
Castaner
qui prêchent la haine dans notre pays.
Les préfets,
ça se fait dans des pays
il y aura
à commencer.
Une cellule dans chaque département, Jordan Bardella.
Ça se fait dans des pays à commencer par des pays arabes. Quand il y a eu des attentats ces dernières années en Égypte ou en Tunisie, on a mis les frères musulmans qui sont les premiers prêcheurs de haine et les premiers vecteurs de l'islamisme sur la liste des organisations terroristes. Eh bien, faisons la même chose en France et arrêtons d'être faibles face à une idéologie qui nous a déclaré la guerre.
Oui, je reviens aux violences du 31 décembre. Vous savez que depuis longtemps, les pouvoirs publics considèrent que médiatiser ce genre de violence, c'est leur faire une publicité et donc c'est les encourager.
Mais ils n'ont pas besoin des journalistes, ils n'ont pas besoin de vous pour se faire une publicité parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et c'est bien grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que nous savons que la nuit du 31, il y a eu des forces de l'ordre qui ont été prises à partie à Strasbourg, qu'il y a eu plusieurs dizaines, voire peut-être plusieurs centaines de véhicules qui ont été incendiés. Et ça, plus personne n'en parle. Alors je crois qu'il y a une omerta aujourd'hui dans notre pays et que l'insécurité fait partie des sujets oubliés sur lesquels nos compatriotes attendent aujourd'hui des réponses.
En tous les cas, dans les priorités des Français aujourd'hui figure l'écologie, figure aussi les retraites et la protection sociale, thème auquel nous venons maintenant, puisque c'est une semaine décisive avec la reprise des négociations mardi. Le Premier ministre sera d'ailleurs l'invité exceptionnel de RTL, mardi à 7h40. Sur la grève elle-même, Jordan Bardella, puisque on va en parler longuement, vous êtes contre cette réforme, est-ce que tout de même sur la grève, vous dites qu'il faut savoir arrêter ? On voit ce matin dans le journal du dimanche un sondage disant que le soutien aux grévistes s'essouffle chez les Français. Il est maintenant minoritaire.
Les sondages sont quand même contrastés, vous me l'admettrez. Moi, j'ai lu ce sondage Odoxa qui est paru avant-hier, il me semble, dans lequel on nous dit que 61% des Français justifient en tout cas cette grève et que vous avez près de 75% des Français, toujours selon Odoxa, c'est pas nous qui le disons, souhaitent que le gouvernement abandonne ou modifie en profondeur son projet.
La tendance est quand même la même d'un institut de sondage à l'autre, c'est que le soutien à la grève diminue.
La réalité, c'est que il y a une majorité de Français qui a bien compris que cette réforme des retraites, elle ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que on parle de cette réforme des retraites depuis maintenant un peu plus d'un mois et demi sur l'ensemble des plateaux de télé et que les Français ne comprennent toujours pas ce qui va leur arriver.
La réforme, Jordan Bardella, juste sur la
mais
grève.
Que, en tout cas, ils vont devoir travailler beaucoup plus pour gagner moins. Moi, je dis que notre rôle en tant que parti politique n'est pas de soutenir ou non la grève, mais en tout cas de combattre politiquement une réforme qui apparaît extrêmement injuste pour des millions de Français aujourd'hui, parce que on va leur demander de travailler davantage. Tout le monde a bien compris qu'ils allaient devoir travailler jusqu'à 64 ans s'ils voulaient avoir une réforme à taux plein. Et encore, pour l'instant, vous avez lu comme moi le rapport de Levoy, rapport qui nous dit que cet âge pivot, ce n'est qu'un début et que cet âge pivot sera modulé en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie. Et pour une autre raison très simple, c'est que votre retraite aujourd'hui, elle est calculée sur les 25 meilleures années lorsque vous êtes dans le privé, elle est calculée sur les 6 derniers mois lorsque vous êtes dans la fonction publique. Or, en prenant en compte l'intégralité de la carrière, les Français ont bien compris qu'ils allaient y perdre massivement et que le niveau de leur retraite allait baisser. Et puis parce que cette réforme, En réalité, moi, c'est le reproche que je fais à Emmanuel Macron, c'est de détricoter l'héritage social et l'identité sociale de la France.
Alors,
Parce qu'en réalité, il va ouvrir la voie à la retraite par capitalisation.
C'est une émission de questions et de réponses. Et la question qu'on vous pose, c'est sur la grève. Vous nous dites, ce n'est pas le rôle d'un homme politique.
Mais je dis que s'il y a une grève, c'est la responsabilité du gouvernement.
C'est lui. Et donc, si la CGT fait grève et qu'elle estime que c'est un moyen d'action nécessaire pour arriver à ses fins, vous dites, pourquoi pas? C'est son droit.
Mais je dis que si des blocages persistent, c'est bien parce que, et qu'ils sont soutenus, et c'est surtout ça qui est intéressant, et qu'ils sont soutenus par une majorité de Français à près de 60% qui considèrent que cette mobilisation, elle est justifiée. Enfin, pardon, mais il ne faut pas réduire cette grève uniquement à ce qui se passe à la RATP, à la SNCF. Vous avez bien vu l'appel des infirmiers, l'appel des kinésithérapeutes, l'appel des pompiers, l'appel des avocats, l'appel des experts comptables à descendre dans les rues. Emmanuel Macron, il est en train de se mettre tout le monde à dos. Parce que les Français, aujourd'hui, ils ont compris qu'Emmanuel Macron remettait en cause ce pacte social. Il remettait en cause la nature même de ce qui fait la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas. Les Français sont extrêmement attachés à ce système. Nous, les premiers. Or, Emmanuel Macron, en ouvrant la voie à la retraite par capitalisation,
on a bien compris, on va
parce que la retraite par
points...
Non mais il faut expliquer.
Mais on va y venir.
Ça fait un mois qu'on en parle.
Restons sur la grève. Il faut quand même bien que ça fait
pédagogique sur ce qui attend les Français.
Sur la suite de la grève.
Vous dites
qu'il y a toujours sur la grève.
Il y a d'autres mouvements. Le fait est que la part occupée par les cheminots et la RATP est très importante. Ça nous intéresse quand même de vous entendre, Jordan Bardella, sur les modes d'action qui ont été utilisés ces derniers jours. Par exemple, à la RATP, il y a une conductrice non gréviste qui a été insultée, bousculée par des grévistes au moment où elle prenait son service parce qu'il contestait le fait que cette femme vienne travailler. Est-ce que ces images, vous, par exemple, vous en choquez?
Oui.
La réforme est une mauvaise réforme.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on peut combattre une réforme sans violence. Mais, enfin, si vous voulez, ça fait maintenant, pour peut-être rejoindre ce qu'on disait avant, ça fait aussi maintenant plusieurs mois, plusieurs années qu'on alerte sur le fait que certains syndicats de gauche, voire d'extrême gauche, sont aussi noyautés par des individus violents et parfois même par des individus radicalisés. Moi, j'ai entendu, enfin, pardon, vous allez me dire que je mélange les choses, mais j'ai entendu, moi, il y a quelques jours, l'un des représentants syndicats de la Anas Kazab, qu'on entend régulièrement sur les plateaux de télévision, nous expliquer pendant un piquet de grève qu'il était aujourd'hui hallucinant que des conducteurs de la RATP et des conducteurs de la SNCF soient mis à l'écart pour le simple motif qu'ils refusaient de serrer la main à des femmes. Donc, oui, il y a des individus violents dans les syndicats, mais il y a aussi des gens qui pacifiquement souhaitent s'opposer, qui sont adhérents de la CGT, qui sont adhérents de Force Ouvrière, qui votent pour le Rassemblement National et qui contestent cette réforme des retraites.
Quand un
mouvement comme celui-ci est soutenu par 61% des Français, alors ça dépasse largement le cadre des syndicats. Et moi, si vous voulez, je ne regarde pas uniquement ce qui se passe depuis un mois, je regarde ce qui se passe depuis maintenant un an dans le pays et je vois que les Français sont obligés de descendre dans la rue pour s'opposer à la politique du gouvernement qu'ils considéraient comme des régressions sociales.
Et quand le même syndicat, la CGT, veut bloquer les raffineries et les dépôts pétroliers pour empêcher les gens de rouler et de prendre leur voiture, est-ce que ça vous paraît légitime?
On a toujours dit, nous, qu'on préférait la gratuité au blocage. Qu'on préférait, moi c'est ce que j'ai dit avant
mais
la trêve,
préférez,
qu'on préférait la méthode de la CFDT qui consistait à aller marcher dans les rues plutôt qu'à aller bloquer. Parce qu'en réalité, en bloquant, ce sont effectivement les usagers et les franciliens qui sont pénalisés. Mais encore une fois, mon rôle de parti politique et notre rôle au Rassemblement National, c'est de combattre politiquement cette réforme. Et nous allons nous opposer à cette réforme à l'Assemblée nationale et nous restons et nous demeurons des adversaires.
On vous sent un peu gêné quand même,
hein,
on comprend pas bien,
absolument
par exemple,
pas.
Le blocage des raffineries.
Absolument pas.
Si le gouvernement envoie la police, les forces de l'ordre pour débloquer les raffineries, est-ce que vous trouverez que ce
serait
une bonne
mesure? Vous aimeriez que je sois et que nous soyons gênés sur ce sujet. La réalité, c'est que vous essayez de réduire la contestation de cette réforme à l'action de la CGT. Or, lorsque...
Attends, elle est en pointe.
Bah, pardon, mais lorsque les kinésithérapeutes, lorsque les avocats, lorsque les pompiers... Lorsque les infirmiers descendent dans les rues et toute autre profession, on dépasse largement
et
le cadre des syndicats.
La question,
c'est le blocage, c'est ça le point clé. La manifestation, personne ne l'a remis en cause, je crois.
Notre rôle est de combattre politiquement cette réforme. Alors, s'il y a des blocages, ben c'est de la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui impose un projet que les Français ne veulent pas. Et je dis que pour contester une réforme, il y a effectivement plusieurs possibilités. Vous avez les blocages s'agissant des syndicats, vous avez les marches et la mobilisation, comme l'a fait la CFDT. Et puis vous avez l'action politique et le combat que nous menons à l'Assemblée nationale. Et effectivement, il ne faut pas réduire cette réforme
à la simple CGT. Est-ce que la CGT fait de la politique pour vous aujourd'hui ou pas? Certains disent qu'elle est plus dans
dans son rôle. La CGT a essayé en tout cas de se refaire une santé sur cette réforme des retraites. Mais enfin, excusez-moi, mais Monsieur Martinez, qui aujourd'hui marche contre la réforme du gouvernement après avoir appelé à voter Emmanuel Macron, franchement, ça fait sourire.
Et Martinez qui a redit cette semaine qu'il avait des valeurs diamétralement opposées aux vôtres. Est-ce qu'il n'est pas surtout en train d'essayer de vous piquer la place
mais
que vous voulez occuper de premier opposant ?
Mais c'est pas mon problème. Enfin, nous, on est à la tête d'un parti politique qui est arrivé en tête des dernières élections européennes, qui est crédité à près de 45% pour l'élection présidentielle de 2022. Alors les Français, ils attendent de nous des réponses, ils attendent de nous un projet politique, et ils attendent de nous surtout que nous portions la contestation à Emmanuel Macron dans les assemblées
alors,
où nous sommes élus.
Et donc vous avez lancé une pétition pour un référendum sur votre site internet. À ce jour, combien de signatures avez-vous ?
Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de signatures.
Parce qu'il n'y a pas de décompte sur votre site.
Mais si vous voulez...
Parce que vous dites que les Français, juste pour, les Français vous disent sont contre cette réforme, en tous les cas manifestent. Alors les sondages divergent en l'occurrence, mais ils ne sont pas pour autant le retour à la réforme à 60 ans comme vous le proposez, Jordan Bardella. C'est ça.
Ils sont, votre alternative, je crois, attachés d'abord à ce système par répartition que nous on défend, qui est basé en tout cas pour, je l'ai dit, hein, pour la fonction publique sur la retenue des 6 derniers mois, sur les 25 meilleures années pour les salaires du privé. Et ils sont surtout attachés à ce pacte social que Emmanuel Macron est aujourd'hui en train de détricoter. Ils ont bien compris que la retraite à points, ça allait être l'abaissement significatif du niveau général de la retraite. Ce système à points, il a été mis en place en Suède. Près de 90% des Suédois ont vu leur niveau de retraite baisser. Et c'est surtout la porte ouverte à la retraite par capitalisation. Et ça va surtout enrichir les fonds privés, hein, les gestionnaires d'actifs et les fonds privés qui sont très proches du pouvoir. Parce qu'on a vu que M. Macron a remis en catimini, pensant être en catimini pendant l'été, la Légion d'honneur quand même, hein, au patron de BlackRock.
On va y venir.
France, qui est manifestement très intéressé par cette réforme des retraites. Hein, il le dit lui-même. Hein, nous, on mène notre expérience au service de cette nouvelle épargne retraite. Et en réalité, vous allez évidemment créer un sentiment d'insécurité parce que quand les Français ne connaissent pas l'âge auquel ils vont partir à la retraite, parce qu'en tout cas, l'âge pivot est sujet à évolution. Quand ils ne connaissent pas le niveau de leur retraite, puisqu'on leur garantit la valeur du point acquis, mais la valeur du point va évidemment être modulée en fonction de... Mais pardon, mais c'est un peu plus complexe que ça.
Enfin, non, c'est
je veux bien que vous agissiez retraite à 60 ans CGT, mais le sujet est un peu plus complexe. Et j'aimerais y voir y venir.
Quand vous dites qu'il faut défendre la retraite par répartition.
Oui, et il faut défendre... Oui, nous, on défend 40 annuités pleines. Voilà, si vous voulez, je vous réponds.
Ce sont les actifs, donc la retraite par répartition.
Exactement.
Ce sont les actifs qui paient la retraite des retraités.
Exactement.
Comme les retraités sont plus nombreux et vivent plus longtemps, les actifs moins nombreux, tout le monde considère, sauf vous, qu'il faut travailler un peu plus longtemps. En tout cas, tout le monde en Europe.
Ah non, au contraire, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas travailler plus longtemps, à part vous, les journalistes, en tout cas certains journalistes.
Non, en Europe, il n'y a pas un pays où on part à la retraite avant 65 ans.
Il n'y a plus personne.
Pas un pays en Europe.
Oui, mais... Enfin, vous pouvez pas comparer. Non, mais pardon, mais prenons l'Allemagne, parce que l'Allemagne est toujours le modèle qu'on prend en exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, nous on a fait beaucoup d'enfants, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Donc l'Allemagne a aujourd'hui un déficit démographique. Donc l'Allemagne considère que on va résoudre le déficit des retraites en augmentant de manière significative, je crois quasiment jusqu'à 67 ans l'âge de départ à la retraite, et on va faire appel à l'immigration. Nous, dans le système que nous avons, vous ne pouvez pas demander aux Français de travailler plus longtemps quand notre système de retraite est basé sur un manque à gagner. Enfin, le Conseil à l'orientation des retraites, il nous dit quoi ? Il nous dit que s'il y a un déficit de retraite, il n'est pas basé sur les dépenses, mais sur les recettes. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est le chômage. Dans un modèle où ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui ne travaillent pas, lorsque vous avez 6 millions de chômeurs, eh bien, le principal problème aujourd'hui avec les retraites, c'est le chômage. Et pardon, mais Emmanuel Macron lui-même, pendant la campagne présidentielle, disait aux Français, je ne peux pas demander aux Français de travailler plus longtemps, alors qu'on a 6 millions de chômeurs. Et donc, moi, je dis qu'il faut relancer l'emploi. Je dis qu'on sauvera le système des retraites en relançant l'emploi et en relançant la natalité.
Le problème, c'est qu'on aimerait bien vous poser des questions et vous comprendre. Parce que là, est-ce que vous ferez campagne en 2022 sur le retour à la retraite à 60 ans ?
Nous ferons campagne en 2022. Déjà, si nous arrivons au pouvoir en 2022, nous retirons cette réforme et nous retirons ce système à points pour garantir et pérenniser le système par répartition.
Est-ce que vous remettez l'âge légal à 60
ans ? Deuxièmement, nous mettrons en place. Mais non, mais pas comme Mitterrand. Enfin, je veux dire, l'âge de départ légal, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est vos annuités. C'est votre temps de travail, c'est vos années de cotisation.
Votre position, c'est
aujourd'hui, vous rentrez. Non, mais aujourd'hui, vous rentrez en moyenne sur le marché du travail à 22 ans et demi. Avec 40 annuités pleines, ça vous ferait donc un départ à 62 ans et demi.
Mais la position du Rassemblement National a évolué. Maintenant, c'est 40 annuités et on oublie l'idée d'une retraite.
Mais ça a toujours été ça.
Non,
bien sûr que si. Bien sûr que si. Et en l'occurrence, nous souhaitons effectivement prendre en compte la pénibilité d'un certain nombre de professions. On n'imagine pas un militaire sur des théâtres d'opération à 65 ans.
Mais Macron
on n'imagine
plus,
pas un marin travailler jusqu'à 65 ans.
Le gouvernement
ans.
Non plus. Et il a dit qu'il maintenait ce régime spécial.
C'est que ce système, il n'est pas si formidable. Si le gouvernement commence par nous dire on va supprimer tous les régimes spéciaux pour un mois plus tard nous expliquer que finalement on va garantir des spécificités, c'est bien que ce système, il ne tient pas la route. Donc ce système, en l'occurrence, il est imposé par Bruxelles, il est imposé par l'Union européenne et il n'a qu'un seul but, c'est faire plaisir aux fonds de pension privés et aux amis d'Emmanuel Macron.
Vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est à lui de reprendre la main dans la période et de recevoir les partenaires sociaux, de défendre sa réforme et de trouver un compromis. Il a appelé le gouvernement à trouver ce compromis rapide.
Je veux dire, je pense qu'Emmanuel Macron n'entend pas les Français. Nous lui demandons tout simplement de retirer cette réforme des retraites, ou s'il ne souhaite pas la retirer, eh bien qu'il fasse un référendum et qu'il, vous savez, c'est pas honteux, demander l'avis des Français et de poser effectivement cette réforme des retraites, ce système par points, en expliquant absolument tout, pas en faisant des simulations complètement bidonnées, parce que moi j'ai vu que dans les simulations qui étaient proposées par le gouvernement, alors d'abord Monsieur Delevoye, avant de partir, nous a expliqué qu'on n'aurait pas de simulation avant 2024. C'est sorti dans le cadre enchaîné. C'est-à-dire qu'en fait on demande aux parlementaires et eux demandent à leurs propres parlementaires de voter une loi dont on ne connaît strictement aucun effet et en même temps, en quelques jours, ils nous ont proposé un certain nombre de simulations. Je vous invite à lire le numéro de Marianne cette semaine qui a à peu près tout décodé. Dans lequel on nous explique que les simulations du gouvernement dans lequel ils nous expliquent que tout est formidable, que tout le monde va y gagner, est basée sur une augmentation spectaculaire et pas du tout crédible des salaires. Plus 40% pour le SMIC.
Juste une question sur le référendum tout de même, parce que vous dites que c'est une de vos propositions. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, vous ferez un référendum sur le retour de l'âge légal à 60 ans ?
Non, si nous arrivons au pouvoir... nous retirons ce système à points et nous rétablirons ce système par répartition qui est basé encore une fois sur les 25 meilleures années pour le privé et sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires avec 40 annuités pleines et un départ à l'âge légal effectivement
et
à 60 ans.
Parce que j'ai moins, pas non juste Jordan Bardella,
mais je vous en prie, allez-y, je vous en prie.
Oui.
Vous saluerez quand même la décision d'Emmanuel Macron de renoncer à sa propre retraite de président. Ça, c'est une décision que vous conserverez.
Mais tout le monde s'en fout. Non, mais honnêtement, je veux dire, je ne demande pas de renoncer à sa retraite, je lui demande de ne pas saccager la retraite des Français. Et en réalité, en voulant s'attaquer aux 5% de ceux qu'il considérait comme des privilégiés alors qu'ils ne le sont pas du tout, les gens qui bénéficient de spécificités de régimes spéciaux, il va pénaliser 95% des salariés et 95% des travailleurs. Donc, on lui demande tout simplement de ne pas saccager le système de retraite parce que cette retraite, elle est basée sur un mensonge et qu'elle ne se justifie pas. L'urgence économique de cette retraite, encore une fois, ne se justifie pas. Les Français l'ont bien compris et qu'on s'attaque plutôt aux petites retraites parce que pendant qu'il fait ça, en réalité, il fait des cadeaux aux plus riches. Pendant qu'il supprime des régimes spéciaux au nom de l'égalité entre les Français, il va créer un régime spécial pour les 1% des plus riches et va créer un manque à gagner de 5 milliards d'euros dans les caisses.
Ce sont vos chiffres. Si elle passe cette retraite.
Ah non, c'est pas mes chiffres, ce sont les chiffres de Marianne.
Si cette réforme,
alors je veux bien que vous comptez
ce sont les chiffres de Marianne.
Non, mais pardon,
si cette réforme passe, est-ce que ce sera un échec politique pour vous ?
Mais pourquoi vous voulez que ce soit un échec politique ?
Est-ce que vous investissez et que vous lancez une pétition pour un référendum ? Donc je vous pose la question, est-ce que ce sera un
échec ? Mais ça ne sera pas un échec politique. Ça sera une nouvelle régression sociale, comme l'ont été la réforme de l'assurance chômage, comme le sont les décisions qu'il prend au quotidien d'augmenter l'électricité, d'augmenter le gaz, d'augmenter les tarifs des péages, de refuser de baisser les taxes sur l'essence, d'avoir supprimé la niche fiscale pour les routiers. Parce que les Français, ils ne comprennent pas aujourd'hui que Emmanuel Macron persiste dans une voie qu'ils ont désavouée lors des élections européennes en mai dernier.
Enfin, mais vous nous parlez d'un président qui a l'air illégitime pour vous aujourd'hui. Il est plus légitime.
Je dis en tout cas que moi j'entends depuis le début de cette réforme les ministres défilés sur les plateaux de télévision nous expliquaient que cette retraite a été validée dans les urnes en mai 2017. Mais moi, je me rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis de ne pas décaler l'âge de départ à la retraite. Or, c'est exactement ce qu'il va faire.
Et alors, vous dites...
Vous dites cela,
on vous entend, vous dites cela, et en même temps, dans ce qu'on entend, on dit c'est un président de la République qui a été élu en 2017, 2022, une nouvelle élection. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme l'a dit Marine Le Pen, qu'il n'est pas de France, Emmanuel Macron, qu'il est d'un milieu qui s'est extrait de la nation depuis longtemps ? D'où mon interpellation du début.
Il considère la France comme une salle de marché. Il considère la France comme une salle de marché à qui... on remet l'épargne des Français entre les mains de fonds privés qui vont jouer au casino avec l'argent des Français. Ils considèrent qu'il faut brader Engie, qu'il faut brader la Française des Jeux, qu'il faut brader nos fleurons industriels, qu'il faut brader Aéroport de Paris, qu'il faut brader Aéroport de Toulouse. Je pense qu'Emmanuel Macron joue au casino avec l'argent des Français et qu'effectivement Emmanuel Macron n'est pas de France. Et que les deux jambes du macronisme sont à la fois la dépossession et le déclassement. Et qu'avec Emmanuel Macron, les Français ont le sentiment que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront moins bien qu'eux.
Et ils, ne cherchent
et
pas
ils ont aussi le sentiment qu'ils sont dépossédés de tout.
Mais je viens de vous poser une question complémentaire.
Il ne cherche pas à servir l'intérêt des Français, Emmanuel Macron.
Mais je n'ai pas le sentiment. Et j'ai le sentiment que tout ce que nous avions annoncé lors de l'élection présidentielle de 2017, que tout ce que Marine Le Pen avait annoncé dans ce fameux débat qui a été beaucoup décrié par les analystes, s'avère vrai. Parce que tout ce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en train de mettre en œuvre et ce climat de régression sociale qu'il est en train d'instaurer, eh bien nous l'avions dit, nous l'avions annoncé, nous avions fait campagne contre ça lors des élections européennes et nous avons gagné. Alors moi j'ai le sentiment que nous allons être élus président de la... que Marine Le Pen va être élue présidente de la République et que nous allons arriver au pouvoir en 2022. Et effectivement, si nous arrivons au pouvoir, nous reviendrons sur toutes
mais
ces
donc
réformes
antisociales. Mais donc il y a ceux qui sont de France et ceux qui ne sont pas de France en fonction de bah, vos critères à vous. C'est ça.
Il y a ceux qui sont
de France. Je dis Emmanuel Macron n'est pas de France et vous considérez qu'il y en a d'autres qui sont de France.
Il y a ceux qui sont attachés à leur pays. Il y a ceux qui sont attachés au bien-être des Français. Il y a ceux qui sont attachés au fait de transmettre à nos enfants une France plus juste, plus durable. Et ceux qui sont effectivement attachés à la loi du marché, qui jouent au casino avec l'argent des Français et qui dilapident le patrimoine des Français et l'héritage
et
social
vous
de
vous
la France.
Vous diriez que la France ne va pas mieux, même s'il y a eu 500 000 créations d'emplois depuis 2017. Pour vous, le tableau est totalement noir.
Bah, je dis que lorsque vous avez de plus en plus de Français qui sont résignés, parce que la question c'est est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui qu'on ne vivait l'an dernier lors des Gilets jaunes ? Non. Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu, nous a dit « je vais ouvrir l'acte 2 de mon quinquennat ». Mais il se trouve que l'acte 2 ressemble beaucoup à l'acte 1 et que les Français voient au quotidien des dépenses de plus en plus contraintes. Je vous ai parlé de l'augmentation des tarifs du gaz, de l'électricité, l'augmentation des tarifs des péages au 1er janvier, et puis cette insécurité quotidienne qui perdure.
Mais sur la baisse du chômage, vous ne le faites pas crédit, cela, par exemple?
Je pense que c'est en grande partie dû à l'augmentation de la croissance mondiale, et que le regain est quand même dérisoire, vous l'admettrez, qu'en tout cas sur le dernier trimestre, le chômage continue d'augmenter.
On vous a entendu critiquer très vertement la retraite par capitalisation. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez des fonctionnaires qui y ont assez largement, assez massivement accès via un organisme qui s'appelle la Préfond, oui, avec des avantages fiscaux et qui s'en portent très bien?
Je dis que aujourd'hui, le système de retraite français, il est basé sur un équilibre. Mais que dans cet équilibre, le système par répartition, il est majeur et il est basé en tout cas sur la solidarité entre les générations.
Ça ne va pas être changé.
Et je dis que si, ça va être changé. Ça va être changé pour deux raisons très simples. C'est qu'à partir du moment où vous ne connaissez pas votre âge de départ à la retraite, que vous ne connaissez pas le montant que vous allez toucher à la retraite compte tenu de la précarité qu'est en train d'instaurer Emmanuel Macron, alors cela va créer un sentiment d'insécurité économique.
Mais c'est déjà
qui fait que vous allez devoir...
Les Français, déjà, ils épargnent pour leur retraite. Déjà, ils sont inquiets pour leur retraite avant même ce changement de statut.
Qui fait que vous allez devoir vous tourner vers un autre système, à commencer par le système par capitalisation. Et pardon, mais dans la loi Pacte qui a été votée, vous avez tout un tas toute une série de mesures, une batterie de mesures qui vise à simplifier, à rendre beaucoup plus attractifs les produits par capitalisation, sans doute pour faire plaisir effectivement aux amis du pouvoir.
Et notamment à M. Cirelli, dont vous faisiez allusion tout à l'heure.
Oui, écoutez, moi on marche sur la tête, c'est-à-dire que on est pendant la...
Parce qu'en même temps, parce qu'il n'y a pas une forme de complotisme, c'est un serviteur de l'État,
on est pendant la période des fêtes. On est en pleine crise sociale, parce qu'il faut dire ce qu'il y a depuis maintenant un an dans notre pays, et Emmanuel Macron ne trouve rien de mieux à faire, on ne l'a pas du tout entendu sur cette réforme des retraites, que de remettre la Légion d'honneur qui est selon l'esprit bonapartiste donné à des gens qui ont rendu un service particulier à la nation, pour éminent. Service rendu à la nation, éminent à la nation, de remettre la Légion d'honneur au patron de l'un des plus grands gestionnaires d'actifs mondial, c'est-à-dire de l'un des principaux leaders de la finance mondiale qui est manifestement intéressé par cette réforme des retraites et qui bénéficiera, compte tenu de son statut, de cette réforme des retraites. Ouais. Je trouve ça hallucinant et je trouve que derrière cela, il y a des intérêts privés, parfois des intérêts privés étrangers, dont Emmanuel Macron est le meilleur agent. Et effectivement,
quel meilleur intérêt privé
Des intérêts de la finance, parce que je pense que les intérêts de M. Cirelli et les intérêts de BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs, qui est le premier gestionnaire d'actifs au monde et un des principaux gestionnaires d'actifs américains. Je crois que ses intérêts
est au service
ne
des
sont pas les intérêts des Français.
Intérêts américains.
Il est au service d'intérêts étrangers.
Aujourd'hui, l'épargne retraite en France, elle est le fait d'acteurs français. Les premières sociétés qui commercialisent des produits d'épargne retraite, c'est le groupe Crédit Agricole, c'est BNP Paribas. C'est pas la peine d'aller chercher BlackRock. Enfin, c'est le système tel qu'il existe aujourd'hui.
Dites-moi, on a combien de fonds de réserve aujourd'hui avec le système de retraite français? Moi, j'ai entendu parler d'un pactole de près de 137 milliards d'euros. Ça veut dire que de l'argent en réserve, il y en a. Et ceux qui nous expliquent aujourd'hui que nous sommes en faillite, c'est faux.
Ils n'ont pas envie de le donner.
C'est
vrai.
On revient dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury de Jordan Bardella, tout de suite.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, le vice-président du Rassemblement National et député européen, Jordan Bardella. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés, Adrien Jeanne de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie sur l'Iran et bien sûr l'intervention américaine contre un haut dignitaire iranien.
Oui, contre le général Soleimani, qui était l'un des hommes forts du régime iranien, qui a été tué par les forces spéciales américaines à la demande de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative du président américain? Est-ce que vous soutenez?
Je comprends la réaction américaine qui a vu son ambassade attaquée, prise à partie par des sympathisants du régime iranien. Maintenant, pour être très honnête, je trouve cette réponse disproportionnée et dangereuse parce que cette région est une véritable poudrière, qu'il y a pu avoir front commun entre l'Iran et les États-Unis dans la lutte contre Daesh. Et d'ailleurs, le général Soleimani a été en pointe. Hein, il est connu, reconnu dans la région pour avoir arrêté l'avancée de Daesh, notamment dans une partie de l'Irak. Mais depuis, l'Irak est livré à une guerre de territoire. Entre l'Iran et les États-Unis, et moi je ne souhaite pas qu'on s'engage dans une troisième guerre du Golfe. Vous savez, Jacques Chirac, qui nous a quittés il y a quelques semaines, a toujours considéré l'Irak comme un pays clé au Moyen-Orient, comme un pays en tout cas stabilisateur. C'est l'une des raisons pour laquelle il avait refusé d'ailleurs d'engager la France dans ce nom, ce fameux nom à la guerre en Irak. Je trouve que cette décision, si vous voulez, est disproportionnée parce qu'en réalité, elle anéantit toute possibilité de dialogue entre l'Europe, d'une manière plus générale, si on considère que l'Europe a une puissance diplomatique, en tout cas entre la France
l'Union européenne, et l'Iran. Vient d'inviter le ministre des Affaires étrangères iranien.
Oui, mais l'Union européenne n'a aucun poids diplomatique.
Dites Donald Trump a tort. Est-ce que l'Union européenne a raison de vouloir tenter le dialogue?
Je dis que je peux comprendre la réaction américaine, mais que je la trouve disproportionnée. Et que je pense qu'on aura bien compris à ce quart d'heure de l'émission que j'ai des désaccords avec Emmanuel Macron. Mais je pense que sa tentative, notamment au dernier G7, je trouve que sa tentative au dernier G7, qui est une tentative finalement assez gaullienne, de mettre autour de la table à la fois Téhéran et Washington, allait dans le bon sens. Et je pense que le rôle de la France aujourd'hui doit être ce rôle qui était cher au général de Gaulle, qui est celui d'être cette troisième voie, d'être cette voie de l'indépendance. Et qui est surtout d'être en cette période cette voie de la désescalade de la violence au Moyen-Orient, qui est malheureusement aujourd'hui une véritable poudrière, et je crains qu'on aille effectivement
vers une escalade. Vous avez rarement de dissonance avec Marine Le Pen, en l'occurrence vous en avez une, puisque Marine Le Pen, je cite Marine Le Pen, elle valide cette intervention américaine, elle dit elle-même que le président Trump, je la cite, a souhaité donner un avertissement à l'Iran en frappant le chef d'organisation des gardiens de la Révolution, dont on sait qu'elle détient en otage deux ressortissants français. Elle pose cette question, un État peut-il laisser son ambassade à la merci de n'importe quel manifestant hostile?
Elle pose la question, et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut...
L'intervention que vous semblez vous critiquer disproportionnée.
Il n'est pas question. Cherchez pas des accords quand il n'y en a pas. Je sais que là aussi, bon.
On peut dire qu'il y a débat.
La question de la riposte américaine, elle est légitime. Mais je dis juste qu'elle apparaît disproportionnée à l'heure où, effectivement, l'exécution du général Soleimani risque de coaliser, en tout cas, le peuple iranien, parce qu'il était assez populaire en Iran, de nourrir un sentiment anti-américain extrêmement fort et d'accroître des tensions dans une région qui apparaît déjà comme une véritable poudrière, à l'heure où on aurait dû effectivement privilégier...
Rien n'empêche qu'il y ait débat dans un parti démocratique avec des différences d'approche.
Quand vous dites la réponse...
Non, il n'y a pas de différence d'approche, pardon.
Quand vous dites que la réponse est disproportionnée, même si elle est légitime...
Alors que
Thierry Mariani, député européen, dit « c'est une faute grave » et parle d'assassinat, on peut dire qu'il y a nuance. Pourquoi vous ne le reconnaissez pas?
Parce que, encore une fois, cette réaction, on la comprend tous. Mais vous me demandez mon avis, et je dis juste que, compte tenu de la situation aujourd'hui extrêmement tendue dans la région, depuis notamment le retrait de Donald Trump des accords de Vienne que nous avions soutenus, qui permettaient encore une fois d'aller vers un désescalade du nucléaire s'agissant de la puissance militaire iranienne, aller plutôt dans le bon sens. Or là, effectivement,
il peut y avoir des avis et donc des nuances, en l'occurrence peut-être trois avis ou nuances différentes. C'est une question maintenant sur Carlos Ghosn qui vous est posée par Adrien Gindre.
Il a fui le Japon, s'est réfugié au Liban alors qu'un procès le menaçait au Japon, mais pas avant des mois où il était assigné à résidence. Est-ce qu'il a eu raison de s'enfuir ainsi? Lui, il dénonce une injustice dont il était la victime au Japon.
En tout cas, Netflix, avec qui il a signé un partenariat, aura de quoi raconter, aura de quoi faire un scénario assez consistant pour sa prochaine série. Je dis que Carlos Ghosn, on l'a dit, devait être jugé évidemment au Japon. Je ne sais pas s'il a eu raison, je ne connais pas le fond du dossier, notamment le fond judiciaire du dossier. Mais en tout cas, moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est la faiblesse de l'État français, c'est la faiblesse du gouvernement. Comment est-ce que le gouvernement et l'administration française pouvaient ignorer s'il y avait véritablement eu évasion fiscale, que l'un de ses principaux patrons et l'un des patrons de ses principales entreprises, à savoir Renault, notamment Renault-Nissan, pouvaient avoir mis en place un système d'évasion fiscale sans que l'administration française en ait connaissance. Donc, évidemment, une faiblesse
au Japon avec
en,
Nissan.
Une faiblesse en amont. Je vous rappelle que, il me semble, il y a quelques années, Carlos Ghosn a loué le château de Versailles avec l'argent de son entreprise. L'État, qui était au conseil d'administration de Renault, à hauteur de 15%, n'a absolument rien dit.
Donc, ressortissant français, vous ne considérez pas qu'il était injustement traité au Japon?
Non, je considère qu'on ne peut pas se soustraire à la justice. Enfin, je veux dire, le Japon n'est pas la Corée du Nord, le Japon n'est pas Cuba. Encore une fois,
il devait être à l'étranger, jugé à l'étranger.
Oui, bah, je considère que à partir du moment où la justice japonaise a des choses à lui reprocher, il devait être jugé au Japon. Encore une fois,
c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Jordan Bardella, je suis Pierre Mera, avocat coprésident du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Vous avez récemment déclaré, s'agissant de la ville de Saint-Denis dans laquelle vous avez grandi et de nos jeunes issus de l'immigration, qu'ils bénéficient de l'attention et des moyens des politiques publiques depuis 40 ans. Cette contre-vérité est démentie par les cris d'alarme des professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, par un rapport de parlementaires qui révèle une rupture d'égalité républicaine dans ce département. Alors une question se pose. En opposant les jeunes à raison de leurs origines, avez-vous fait de la détestation et de la haine votre profession de foi ?
Jordan Bardella, des déclarations, je le précise, dans Valeurs Actuelles, dans un débat face à Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse. Vous parlez donc de la Seine-Saint-Denis avec ces propos disant en effet que trop de moyens y avaient été mis. Quelle est votre réponse à M.
Oui, territoire Mera. Que je connais bien puisque j'y suis né, j'y ai grandi, contrairement peut-être à monsieur qui n'y a sans doute jamais mis les pieds. Et j'ai dit une chose qui m'apparaît vraie, c'est que les quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, et en tout cas les banlieues, ont eu toute l'attention des pouvoirs publics ces 40 dernières années. Vous savez qu'au travers de la politique de la ville, notamment, on a déversé près de 90 milliards dans ces quartiers, alors que nos campagnes, hein, nos petits villages qui voient aujourd'hui fermer les bureaux de poste, qui voient aujourd'hui fermer les casernes de gendarmerie, les classes, auraient aussi aimé bénéficier d'une petite attention similaire de la part de l'État. Je dis que le problème dans les banlieues, il n'est pas d'ordre économique. Voilà, on a considéré que parce qu'il y avait de la pauvreté, il y avait de la délinquance.
Il n'y a pas besoin d'argent dans les banlieues.
Non, si je dis que les moyens qui doivent être mis dans les banlieues sont des moyens régaliens. Mais moi, vous voyez, dans le quartier où j'ai grandi, la police fait tout pour contourner la cité. Et je dis qu'on peut parfaitement être issu de ces quartiers, réussir. Mais je dis que moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait tout. Où il y avait un bureau de poste, où il y avait un commissariat, où en prenant le métro à la basilique de Saint-Denis, j'étais à 15 minutes de Champs-Élysées-Clémenceau. Je dis juste qu'il faut arrêter le discours victimaire sur les banlieues. Je dis que quand on vient de ces quartiers, qu'on veut s'en sortir, qu'on a des parents qui sont derrière, qui vous donnent une éducation, comme ça a été mon cas, alors on peut parfaitement s'en sortir. Mais je dis en revanche que est aussi arrivé à l'âge adulte dans ces quartiers toute une génération de jeunes, de certains jeunes, pas de tous les jeunes, de certains jeunes, qui ne perdent pas une occasion pour s'en prendre aux forces de l'ordre, pour exprimer un rejet de la France et de ses institutions. Non, c'est pas une stigmatisation, c'est la vérité. Voilà. Donc
le rapport parlementaire dit tout faux quand il dit avec parlementaires qui sont de tous bords et qui font ce rapport parlementaire en disant il y a un manque de moyens, de force régalienne certes, mais aussi de moyens économiques et financiers. Vous dites ils ont tort.
Non, c'est pas ça. Je dis que les moyens qu'il faut émettre doivent être des moyens régaliens. Si vous voulez, vous pourrez faire tous les dispositifs d'incitation fiscale, de zone zones franches, baisser les impôts dans ces territoires pour espérer créer de l'emploi, et certains arrivent à créer de l'emploi. Mais tant que vous ne rétablissez pas la sécurité, que vous n'allez pas lutter contre le communautarisme et contre le fondamentalisme islamiste, alors vous ne réussirez à rien dans ces quartiers. Donc soit vous avez la logique qui est celle d'une partie de la gauche depuis des années, qui est celle de monsieur, qui est de nier complètement les problèmes de ces quartiers, soit vous avez des gens qui, comme nous, font le constat que ces quartiers sont totalement abandonnés de manière régalienne par l'État et qu'on n'a pas suffisamment mis de moyens policiers dans ces quartiers, de moyens pour la justice, de moyens pour l'école, et qu'on a en tout cas considéré que c'est parce qu'il y avait de la pauvreté qu'il y avait de la délinquance. Je crois que c'est comme ça qu'on réglera les problèmes. Et tant qu'on ne rétablit pas l'ordre dans ces quartiers, tant qu'on ne remet pas la République dans ces territoires et qu'on ne rétablit pas l'ordre républicain, alors vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne réussirez à rien.
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'à votre avis les médecins fuient ces quartiers ? Pourquoi est-ce qu'à votre avis les gens qui se sont installés avant dans ces territoires fuient ces quartiers et fuient la Seine-Saint-Denis pour aller habiter dans le Val-d'Oise ou en Seine-et-Marne ? C'est bien parce qu'aujourd'hui ils n'en peuvent plus, qu'ils ont le sentiment de ne plus être en
France.
Vous avez
répondu.
Et qu'ils ont
le
sentiment que l'ordre républicain n'est plus assuré.
Jordan Bardella, il y a aujourd'hui une polémique sur une campagne qui a été lancée par l'association Alliance Vita, qui milite notamment contre l'avortement, une campagne dans les gares franciliennes, dans le métro de Paris. La justice a demandé que soit réaffichée cette campagne qui a été critiqué par Anne Hidalgo. Quelle est votre position ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait là de la censure ou que cette campagne qui peut être considérée comme anti-IVG n'avait pas sa place ?
Je m'inquiète de voir ces dérives de plus en plus inquiétantes sur la liberté d'expression, et en tout cas j'ai à peu près le même avis que la justice qui vient en référé de rejeter cette interdiction de la part de Madame Anne Hidalgo. Alors vous me connaissez, je ne suis pas particulièrement un militant anti-IVG, mais je considère que cette campagne n'était pas outrancière et qu'on doit pouvoir avoir le droit d'exprimer dans notre pays des avis qui sont divergents de ceux de Madame Hidalgo. Et qu'on n'est pas forcé de penser comme Madame Hidalgo et qu'on a le droit effectivement d'avoir des avis divergents, d'autant que cette campagne, on peut en discuter sur le fond, mais d'autant que cette campagne ne m'apparaissait pas outrancière.
Et les affiches qui parlent de respect de la maternité et de la paternité. Et
oui, enfin, je vois pas ce qu'il y a d'outrancier dans la phrase le respect de la paternité.
Enfin, vous savez qu'une campagne anti-IVG aurait été immédiatement interdite. En l'occurrence là, certains ils voient une manière de contourner la loi pour militer contre l'IVG.
Oh, la France, pays des droits de l'homme, pays de Charlie, pays de la satire, est quand même très très loin. Mais je crois que Madame Hidalgo était Charlie, elle était surtout Charles Liberté d'expression il y a quelques jours. Mmh. Et peut-être, c'est peut-être la bonne période pour se rappeler de l'esprit Charlie et du fait que la France a été par le passé ce pays de Voltaire, ce pays de la satire, ce pays de la liberté d'expression, qu'elle est de moins en moins. Et moi, je m'inquiète effectivement de voir ce recul de la liberté d'expression aujourd'hui dans notre pays. Vous savez ce que disait, je crois, Voltaire, si je ne me trompe. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer ces opinions.
Alors, qu'en est-il, en l'occurrence, dans l'affaire Gabriel Matzneff, puisque vous savez que cette affaire a pris une tournure judiciaire avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol contre cet écrivain de 83 ans qui a été mis en cause pour ses relations avec des mineurs dans un livre de l'éditrice Vanessa Springora. Donc ouverture d'informations judiciaires, certains disent aujourd'hui qu'il faudrait carrément interdire ces livres. Qu'en pensez-vous, Jordan Bardella ?
Bon, écoutez, si on suit cette logique, alors il faut interdire d'antenne tous les gens qui ont eu des propos similaires et qui aujourd'hui ont libre cours sur les plateaux de télévision. Et qui ont eu par le passé des propos absolument abjects, nauséabonds, et qui ont bénéficié d'une mensuétude des milieux politiques, littéraires, journalistiques. Il y a Matzneff, mais il y en a d'autres. J'entends moi régulièrement sur votre antenne M. Cohn-Bendit, qui trouvait il y a quelques années génial de se faire tripoter la braguette par une gamine de 2 ans. Lui, il a rien. Lui, il a libre cours sur les plateaux.
Il n'y a pas de procédure qui soit ouverte contre M. Cohn-Bendit aujourd'hui, contrairement à M. Matzneff.
Ouais, enfin, il y a parfois des questions d'ordre moral. Et en l'occurrence, quand on a tenu ces propos, alors moi, je trouve ça abject, effectivement, qu'on continue de donner la parole à ces gens-là, qui sont les héritiers de mai 68, hein, qui sont les héritiers de cette idéologie 68arde. Et c'est peut-être l'heure pour la gauche de faire son autocritique. Libération, d'ailleurs, avait soutenu par le passé plusieurs tribunes, notamment les tribunes de M. Jack Lang.
Enfin, Gabriel Matzneff avait été soutenu
de M. Glucksmann, qui trouvait formidable, effectivement, de faire connaître le plaisir sexuel à des enfants. Moi, je trouve ça particulièrement abject et j'ai en tout cas aucune forme de tolérance à l'égard de ces idées et de ces gens-là. Oui.
Vous pensez qu'il devrait rembourser les 160 000 euros qu'il a reçus depuis 2002 de la part du Centre National du Livre ?
Oui, enfin, je pense en tout cas qu'on devrait arrêter de donner la parole à ces gens-là et que la justice devrait faire son travail parce qu'en l'occurrence, s'agissant de M. Madzneff, sa victime le dit elle-même, hein, tout le monde avait connaissance de cette relation, la police, certains juges en avaient connaissance, mais rien n'a été fait. Et c'est vrai que c'était une époque héritée de 68 pendant laquelle on avait une forme de complaisance à l'égard de ces idées. Et moi, je me réjouis de vivre dans une époque où les réseaux sociaux sont parfois beaucoup plus productif que les institutions à l'égard de ces idées.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Jordan Bardella, pour ou contre le mois de janvier sans alcool, qu'on dit Dry January?
Joker.
Ah, ah ben non, c'est pour
écoutez, que chacun consomme avec modération. Goûtons le bon vin français quand même, qui fait la fierté de notre pays, qui donc fait le succès de nos viticulteurs à l'international. Mais buvons et consommons avec modération.
Pour ou contre le passage du Dakar en Arabie Saoudite?
Contre. On va peut-être éviter de faire la publicité à un pays qui voue aux gémonies et qui voue à des coups de fouet des penseurs et des poètes parce qu'ils ont le malheur de critiquer le régime.
Pour ou contre une flèche en verre pour la reconstruction de Notre-Dame?
Contre. Moi, je suis attaché à ce qu'on reconstruise à l'identique systématiquement, de la même manière que j'étais opposé à ce qu'on reconstruise la flèche au-dessus de la basilique de Saint-Denis, à côté de chez moi, parce que je considère que le patrimoine historique, on l'hérite
pas évoluer, ce
d'une telle manière... Oh non, je crois que je l'avais dit chez vous, mais ouais. Si vous voulez, les pubs et les bars à rooftop au-dessus de Notre-Dame, comme ça avait pu circuler sur les réseaux sociaux, pour moi c'est non. Quoi,
peut-être
oui.
Un peu excessif. Pour ou contre Jordan Bardella enfin, pour ou contre Jordan Bardella candidat au régional en 2021 en Île-de-France?
Probablement pour, je serai probablement candidat aux élections régionales, je ferai connaître en tout cas ma décision après les élections municipales. Mais je serai probablement de ce combat qui sera évidemment pour nous décisif avant l'élection. Oui, je serai probablement tête de liste lors de ces élections régionales et nous ferons connaître évidemment nos têtes de liste dans les différentes régions après les élections municipales.
Juste avant, il y a les municipales, Adrien Gindre.
Ça veut dire aussi, si on va au bout de votre logique, Jordan Bardella, que la relève pour demain au Rassemblement National, c'est vous?
Non, je ne sais pas. Moi, je m'efforce de remplir mon rôle, qui est aujourd'hui celui d'être aux côtés de Marine Le Pen et de la mener à l'Élysée en 2022.
Mais vous ne dites pas.
Et quand je vois en tout cas ce sondage qui nous place à 5 points de l'Élysée, je me dis que c'est possible, que c'est nécessaire et nous sommes beaucoup à le souhaiter.
Ça sera sa dernière campagne?
Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'elle finira 2022 à l'Élysée et qu'elle fera 2 mandats. Parce que, vous savez, après l'élection d'Emmanuel Macron, on a beaucoup vanté le Nouveau Monde. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'était pas le premier président du Nouveau Monde, mais le dernier président de l'Ancien Monde. Et peut-être que ce vent de dégagisme est aujourd'hui terminé. Peut-être que les Français reviendront aussi à une forme de stabilité dans la vie politique.
Est-ce que vous êtes son vrai dauphin? Je disais dans l'introduction de cette émission que c'est vrai que le patronyme Le Pen pouvait être un moment préjudiciable. Est-ce que vous pensez, vous, que vous pouvez à un moment donné être la succession naturelle de Marine Le Pen?
Je ne sais pas. Ça, c'est vous, les journalistes, qui faites ce type d'analyse. Moi, je suis à ses côtés aujourd'hui. Je suis très content d'occuper ce rôle à ses côtés, d'avoir aussi participé à mon modeste niveau à la victoire des élections européennes. Et je pense que les Français attendent de nous aujourd'hui de la rigueur, du travail. Et je peux rassurer les Français sur le fait que plus nous nous rapprochons de l'Élysée, plus nous nous y préparons.
Avant l'Élysée, il y a les municipales. Ça a toujours été une élection difficile pour le Rassemblement National. Est-ce que vous pourriez faire des alliances avec des maires de droite ou même les soutenir? Vous avez dit, il y a chez les Républicains comme ailleurs des gens sincères.
Oui, probablement. Vous savez, la nouveauté aussi, la petite révolution culturelle qu'on a fait au sein du Rassemblement National, qui diffère avec le Front National, c'est qu'on assume cette logique d'ouverture. Vous parliez tout à l'heure de Thierry Mariani, qui a présidé la droite populaire, qui a fondé ce courant populaire au sein des LR. Et moi, je dis aujourd'hui à tous les Français, venez à nos côtés. Et voilà, venez à nos côtés ces élections municipales. Partout, on est en capacité de gouverner. Depuis 2014, on a fait nos preuves. À Fréjus, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, on a baissé les impôts, on a rétabli la sécurité. Alors je dis aux Français que partout où nos compatriotes nous ont essayé, ils nous ont adoptés. Les scores que nous faisons dans ces villes augmentent d'année en année. Donc je veux rassurer les Français sur le fait que nous présenterons beaucoup de listes dans ces élections municipales et nous gagnerons sans doute.
Et dans certaines villes, vous pourrez soutenir des maires, les Républicains sortants?
Écoutez, pourquoi pas? Vous savez, moi je ne suis pas sectaire. Autant je trouve l'idée d'union des droites assez restrictive, autant je considère qu'il est aussi de notre rôle aujourd'hui que de rassembler des gens qui peut-être hier nous ont combattus. Et c'est vrai que chez les Républicains, beaucoup ont le sentiment d'être orphelins aujourd'hui. Et à ceux-là, je leur dis, venez combattre à nos côtés. Vous vous battez depuis des années pour que la France reste la France. Vous vous battez depuis des années contre le matraquage fiscal. Vous vous battez depuis des années pour établir l'école, pour établir la sécurité. Nous défendons toutes ces idées. Alors venez avec nous.
Bardella, c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Jordan Bardella. Alors vous avez interpellé le 26 décembre dernier Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas souhaité un joyeux Noël en français. Ça a suscité beaucoup de réactions, notamment sur votre page Twitter. Mais Emmanuel Macron a souhaité un joyeux Noël aux Français. C'était en 2017, en 2018. Et cette année, il l'a souhaité lors d'un repas de Noël avec les forces françaises à Abidjan. Est-ce que ce n'était pas une fausse polémique au final?
Donc il l'a souhaité en 2017, en 2018 et 15 jours avant à nos forces armées. Donc on considère que c'est bon. Enfin, en tout cas, moi, les anniversaires de mes proches, je leur souhaite tous les ans, pas seulement la première fois que je les rencontre. Moi, j'ai été extrêmement choqué, oui, que... vous voyez, tous les dirigeants européens, tous les dirigeants internationaux, que ce soit Trump, que ce soit en Europe, Matteo Salvini en Italie, que ce soit Boris Johnson,
souhaitent joyeux Noël. En premier lieu, est-ce que ce n'est pas le rôle d'un président de la République qui est garant de la laïcité à un moment donné de ne pas être forcément là où vous l'attendez?
Mais vous voyez, la République, elle est laïque, mais Noël fait partie des traditions de la France et qu'on a des traditions dans le calendrier, que ce soit Noël, que ce soit Pâques,
et le faire devant les militaires,
qui font
pas.
Partie effectivement de notre héritage. Et je considère effectivement que c'est aussi du devoir du chef de l'État que de souhaiter joyeux Noël à ses concitoyens, parce que beaucoup ont le sentiment que...
Mais Adrien, j'aime vous poser une question.
Quand il parle devant les militaires, ça n'a aucune importance.
Beaucoup ont le... Écoutez, il s'est exprimé une semaine avant devant les militaires. En l'occurrence, ça ne lui coûtait rien que d'adresser sur les réseaux sociaux, hein, sur son compte Twitter, sur sa page Facebook, dans une petite vidéo, joyeux Noël aux Français.
Parce qu'il ne l'a pas fait
délitérément. Je trouve que, voyez, à l'approche des fêtes, on était dans un climat un peu délétère. Dans un climat un peu tristoun où les Français n'avaient pas la forme. D'abord de la responsabilité du gouvernement, qui n'avait pas besoin d'ailleurs d'imposer cette réforme juste avant les fêtes, qui n'avait pas besoin d'imposer cette hausse de l'électricité et du gaz. Et effectivement, parfois, de souhaiter un peu de réconfort aux Français, de leur souhaiter joyeux Noël, je trouve que c'est pas trop et je trouve que ça fait partie de nos traditions. Et moi, je suis très fier de pouvoir souhaiter joyeux Noël aux Français tous les ans.
Autre question, Marie-Pierre.
Oui, alors on a vu durant cette émission avec le hashtag Le Grand Jury, beaucoup de vos militants se sont mobilisés. Et on a une question d'une internaute, Stella, qui veut savoir quelles sont les réformes que vous comptez abroger si vous arrivez au pouvoir en 2022. Vous avez notamment parlé de la réforme des retraites durant l'émission. Mais lors de votre dernier passage au Grand Jury, vous avez déclaré que vous ne reviendrez pas sur le mariage pour tous. Est-ce que sur la PMA, vous adoptez la même position?
Écoutez, je ne sais pas, c'est à la candidate à l'élection présidentielle de
Qu'est-ce que vous lui conseillez ?
De le décider. Je lui conseille rien, elle prendra sa décision. Je considère effectivement que le mariage fait partie aujourd'hui d'un acquis. Vous avez une majorité de Français qui considère la même chose. Moi, j'étais opposé à la PMA, j'étais également opposé à la GPA, parce que je considère effectivement que la GPA est la porte ouverte, que la PMA pardon est la porte ouverte à la GPA, et que effectivement.
Vous dites pas abrogation, vous savez pas.
Non, je dis que c'est à la candidate à l'élection présidentielle de prendre sa décision, et je ne m'avance pas en ce sens.
Autre question sur les grèves.
Oui, alors à partir de
Vous savez, les sujets sociaux et les sujets économiques, mais également les sujets migratoires nous donnent beaucoup de travail.
Oui, et puis vous pouvez avoir des nuances sur les sujets sociétaux et sur d'autres sujets. Marie-Pierre Haddad.
Oui, à partir de demain, les étudiants de l'université Panthéon-Sorbonne auraient dû normalement commencer leur partiel, mais à cause des grèves, eh bien, conséquence directe, les partiels ont été reportés d'une semaine. Est-ce que vous demandez la fin des grèves pour pouvoir permettre aux étudiants de passer
non,
leur
je
partiel
demande
Ils
s'en en
sont
tout
beaucoup
cas,
inquiétés
non,
sur les réseaux sociaux.
Je demande
sociaux.
En tout cas au président des universités. J'ai vu que le président de l'université Nanterre maintenait les partiels. Je pense que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'étudiants parce que la vie ne se résume pas à Paris. Vous avez
Est-ce
des
qu'il
étudiants
faut donc arrêter les
qui,
grèves pour qu'ils puissent passer leur partiel.
Qui habitent très loin, qui habitent en banlieue, qui n'ont pas le permis, qui ne peuvent pas se déplacer. Je leur demande en tout cas, et nous leur demandons, d'aménager dans la mesure du possible les partiels et de les reporter de manière à permettre à l'ensemble des étudiants de pouvoir passer leur partiel dans des bonnes conditions.
C'est dit. Merci Jordan Bardella. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.